Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06, vous écoutez RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. Jusqu'à midi, Pascal Duprat, Fred Weiss, Simon Dutin, les grandes gueules du sport qui vous accompagnent tous les week-ends de l'été. On ne s'arrête jamais, même pendant vos vacances. Si vous êtes sur la plage, vous pouvez nous écouter. Si vous êtes en Bretagne, au restaurant, au travail aussi, vous avez le droit de travailler. Et dans ces cas-là, bon courage. Et vous pouvez retrouver aussi le podcast des grandes gueules du sport et notre débat d'ailleurs de la première heure sur le Paris Saint-Germain. Dans une heure, on ira à Wimbledon avant la finale Alcaraz-Sinner, remake de la finale de Roland Garros, une finale interminable remportée par l'Espagnol. Est-ce que ça va jouer tout à l'heure à Wimbledon? Et puis, dans 30 minutes, la punchline des GG signée ce matin, Fabien Galthié, après la grosse défaite subie par les Bleus hier en Nouvelle-Zélande. On se demande à quoi ça sert ces tournées du 15 de France. Mais d'abord, c'est l'heure du bras de fer GG.
RMC, le bras de fer GG.
C'est parti pour cette course de côte. Flamme rouge donc avec Remco Evenepoel en tête. Tadej Pogacar dans sa roue. Jonas Vingegaard juste derrière. Kevin Vauclin ensuite. Et ils sont plus que 7-8.
Toujours derrière notre beau maillot blanc de meilleur jeune Kevin Vauclin qui vient de passer un virage un peu technique. Très bien négocié par le coureur français.
Vauclin vient de rattraper Henrik Maas qui était parti 2 minutes devant lui. Donc c'est quand même une sacrée performance. Le quatrième temps actuellement pour Kevin Vauclin. Quatrième temps. Bon chrono
moins
pour Kevin Vauclin.
Moins 50
secondes, effectivement. Voilà. Avec Kevin Vauclin qui accélère à nouveau, qui ne veut pas que ça revienne derrière.
Mathieu Van Der Poel.
On est à la sortie de Saint-Etienne au Mans et Mathieu Van Der Poel est sorti avec lui. Ils sont deux et Jorgensen derrière essaye de faire le travail pour boucher le trou de 5 mètres.
Tous ces supporters, tout le soutien, je suis aux anges, vraiment, je suis aux anges. Merci à tous, vraiment.
Pour ce bras de fer. Hop, je recommence. Pour ce bras de fer. On accueille un gros bras. Ah oui, bah ça casse tout l'effet là. On accueille Jérôme Pinault qui est avec nous. Salut Jérôme.
Salut François, salut les copains.
Salut, bonjour
à tous. Salut, j'allais dire gros bras Jérôme Pinault, mais c'est plutôt grosse cuisse quand même.
Surtout en ce moment. De plus en plus d'ailleurs. Ça va pas si vite en vélo.
Je me permettrai pas. Kevin Vauclin est actuellement 3e du général du Tour de France, intercalé entre Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Il est à 1 minute 11 de Tadej Pogacar, le leader. Il a prouvé lors de cette première semaine qu'il pouvait suivre les meilleurs. Il est jeune, 23 ans, il est français. Il répond bien à la presse. Mais faut-il s'enflammer pour autant? D'un côté, la team Enflammade, composée de Pascal Duprat et Simon Dutin. Encore les dudus, hein, t'as remarqué.
Ouais, c'est des dudus.
Dans la team pas Enflammade, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Pour l'instant, sur le compte X des grandes gueules du sport, ça donne un large avantage à la team. Il ne faut pas s'enflammer. 63% contre 37%. Il va falloir être convaincant, Simon et Pascal.
Pas de problème.
Mais juste avant de vous entendre et d'attendre vos arguments, on va accueillir Nicolas Pelletier, nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. Salut Nico.
Salut les amis, salut à
Nico.
Tous.
Salut Nico.
Kevin Vauclin qui a vécu, pour le coup, une folle semaine hein, sur le Tour de France.
Oui, et la notoriété grandissante de Kevin Vauclin mesure dès la descente du bus le matin avant les étapes. Dans le paddock, le coureur de 24 ans voit son nom scandé par le public, des énormes pancartes pour l'encourager. À Bayeux, dans sa ville natale où le Tour est passé cette semaine, le public est conquis.
Nous, on le connaît depuis longtemps, donc on n'est pas surpris. Après, il commence à se dévoiler au grand public, il commence à avoir une renommée au niveau mondial.
J'ai envie de croire que ce soit le prochain Thibaut Pinot, le nouveau chouchou des Français.
Au pied du bus de Arkéa, jeudi matin, on a retrouvé Bruno, le papa de Kevin Vauclin. Les larmes aux yeux, il n'attendait pas son fils à ce niveau-là, 3e du général.
C'est inattendu, évidemment inattendu, mais j'arrive pas à inespérer parce qu'il donne un maximum pour en arriver là. Mais il mérite vraiment sa place, il travaille quoi. C'est ce que je dis à tous les médias, il a fait 2e au Tour de Suisse, mais il a gagné le cœur des Français. Et pour nous, parents, c'est encore plus important.
Et même Kevin Vauclin voit sa vie changer avec cette position au classement.
Ouais, c'est juste incroyable là, tout le public et oui, je sens la notoriété qui change et surtout le regard des gens et j'en suis content. Là, je suis plus que chez moi. Là, il y a mon ancien collège qui est à 100 mètres, il y a mon premier club de vélo qui est là, la route où on est, c'est les premières courses de vélo qu'on a pu faire. Les jeux d'adresse, on les faisait sur la place qui est juste à côté, c'est juste fou. C'est juste fou d'être ici. Et déjà en carrière, de passer ici, c'est fou. En plus, avec cette notoriété grandissante et ses dernières performances, en étant 3e du classement général, je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux.
souriant, marrant, surtout performant. Mais pourquoi le public adore le Normand? La réponse de sa maman Valérie.
Il est nature, voilà, bah, comme on l'a élevé, donc c'est un bon garçon. Et je pense que tous les gens s'en sont rendus compte, donc voilà, c'est bien. Oh, je suis encore émue, hein, excusez-moi, des fois je ne trouve même plus mes mots.
Et pour combler ses parents sur ce Tour de France 2025, Kevin Vauclin rêve maintenant de leur offrir une victoire d'étape lors des deux prochaines semaines.
Bah, merci beaucoup Nico, j'espère que ça se passe bien avec Christophe, avec les deux Jérôme aussi, que tu arrives à les maîtriser.
Ah, mais oui, ça se passe totalement. Plutôt ça, même. Bon. Lui, le patron, hein, tu sais, ses origines corses font que nous, on
s'en oui, c'est lui, ça, hein, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on l'a envoyé, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Il est très, très encadré. Tu sens bien que Doumé, comme on l'appelle dans la bande, c'est lui qui dirige.
Bon, Nico, merci beaucoup, en tout cas. Encore une belle journée pour toi sur le Tour de France. On te retrouvera, évidemment, régulièrement sur l'antenne d'RMC. Je rappelle la question, faut-il s'enflammer pour Kevin Vauclin? Et sans même parler, vous avez perdu déjà % les amis du oui, Simon et Pascal.
Et pourtant, c'est là que vous êtes les meilleurs, pour vous ne parlez pas.
C'est vrai qu'il y a les votes. Puisque c'est 64 contre 36. Ouais. Qui veut défendre oui? Alors, Simon, vas-y.
Fred, évidemment, Fred Weiss, parce qu'il s'enflamme pour un Français. La dernière fois que tu t'es enflammé pour un Français, c'était Bernard Hinault, c'est ça? C'est
ouais.
La dernière fois qu'on a gagné,
la fois qu'on a gagné
le
quoi.
Tour de France.
Ouais.
Donc voilà, ouais, toi t'es le cyclique par excellence. Le mec ne s'enflamme que si t'as une chance de remporter le Tour de France. Kevin Vauclin, et pourquoi on s'enflammerait pas sur Kevin Vauclin? Il est jeune, il sort un petit peu de nulle part pour le grand public, il est frais, il a de l'audace, il est un petit peu allé sur tous les terrains, il court à la fois les classiques, à la fois les courses à étapes. On a entendu son papa rappeler quand même qu'il fait deuxième du Tour de Suisse, mais bon, pour Fred... ça ne veut rien dire. Je t'invite déjà à faire
Je sais pas pourquoi tu m'attaques moi. Le plus grand consultant de cette radio, Jérôme Pinault, a dit comme moi. Donc attaque-toi quelqu'un qui a fait du cyclisme.
Mais hier, tu t'es caché sous la table.
Je sais que t'as beaucoup de difficultés à comprendre ça, mais je n'ai pas fait le cyclisme. Et j'ai juste la même opinion que Jérôme Pinault qui connaît bien le cyclisme.
Il fait de la forme, il fait de la procès.
T'as donc pas de personnalité.
Mais si, je ne savais pas qu'il avait cette opinion et je suis ravi d'avoir la même opinion. Ce qui m'encourage à considérer que j'ai raison.
Laisse-moi terminer et j'attacherai ma serviette autour du cou pour écouter tes arguments. Son papa a rappelé deuxième du Tour de Suisse. Je t'invite déjà à faire le tour de Limoges en vélo. Deuxième du Tour de Suisse.
Je t'invite à me dire aussi.
Il est coureur numéro un français au classement UCI. Il fait cinquième quand même du chrono à Caen. Cette année quand même, ils sont pas nombreux. Il est derrière Pogacar. Il remporte l'étoile de Bessèges cette année. Il fait deuxième de la Flèche Wallonne derrière Pogacar devant un Tom Pidcock qui est quand même pas le premier venu. Il est là, il est toujours là jusqu'à présent. On va dire oui, alors ça n'a pas encore grimpé. Mais si on s'enflamme pas quand on a une nouvelle tête, un nouveau jeune, un nouveau cycliste français qui déchaîne les passions sur les routes du Tour, qui apprend.
Mais c'est le même garçon qui s'enflamme pas pour le PSG alors qu'ils sont en train de marcher sur le monde.
C'est pareil pour toi.
Arrête de caricaturer. Donc oui, on s'enflamme. C'est vrai que Ineos Grenadier, c'est vraiment une équipe de pimpin. Visiblement, ils le convoitent parce que l'avenir de son équipe.
En ce moment, je te confirme, c'est pas la meilleure équipe du monde.
D'accord, mais je veux dire, c'est qu'ils sortent pas de nulle part.
Quand ils ont un grand chéquier.
Et justement, Jérôme. Je retourne cet argument. Ineos, ils vont un petit peu moins bien. Bah, ils regardent un petit peu autour. Qui pourrait rafraîchir
un petit
peu et compléter leur équipe? Qu'une équipe comme ça s'intéresse à Kevin Vauclin, je pense que ça dit quelque chose du niveau et surtout du potentiel de ce jeune homme qui, moi, personnellement, me régale. Voilà. Je ne dis pas qu'il va gagner le tour, mais oui, je m'enflamme pour Kevin Vauclin.
Oui, alors Jérôme, tu voulais réagir à ce que dit Simon?
Ouais.
Parce que là, Fred, il est dans les cordes, donc là, il peut pas réagir.
Ah
donc,
non, 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 on n'est pas dans les cordes.
Il a donné trois arguments pourris, laisse tomber.
Et en plus, aide Fred, parce qu'il a du mal.
En disant non, tout simplement, aimons-le. Supportons-le.
Oui.
Enflammons-nous.
Suivons-le. Voilà. Non, parce que s'enflammer, Kevin Vauclin me rappelle un garçon que j'ai très très bien connu, qui avait les mêmes qualités que lui, qui a commencé à faire de très grandes performances, et en qui tout de suite on s'est enflammé pour le Tour de France. Pour le Tour de France, il s'appelle Sylvain Chavanel. Et Kevin Vauclin, il a les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'il est rouleur, il passe très bien la montagne, il a du punch, il aime les classiques, il aime le cyclisme dans son ensemble. Et Kevin, sur le Tour de France, c'est absolument pas une surprise de le trouver là, mais si on s'enflamme maintenant, et quid de si lundi il recule et il perd beaucoup de temps au classement général?
Mais
alors
non.
C'est fini, on n'aura plus de Kevin Vauclin.
On a conscience qu'il va y avoir une sélection naturelle et qu'il ne va plus être troisième.
Parce que, oui, mais parce que Pascal, laisse-moi finir, parce que je pense
que
moi, sans m'enflammer, Kevin Vauclin, pour moi, cette année, avec les circonstances de course et le plateau présent, il peut jouer dans les 10. Il peut faire dans les 10 premiers. Ouais. Mais faire dans les 10 premiers du Tour cette année, ça ne voudra pas dire qu'il va jouer le podium l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un coureur qui est complexe. Mais il faut juste lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Ne pas brûler les étapes, tranquille. Ne pas lui mettre une pression populaire. Mais il ne sait pas, ce que c'est. Simon ne sait pas ce que c'est qu'être un sportif de haut niveau. Évidemment, je peux le comprendre. Cette pression qu'on met sur les athlètes de haut niveau,
ça
n'a aucun intérêt. Il faut le soutenir. Mais ne pas s'enflammer. Non, c'est ça.
Il comprend tous les sports, il comprend pas que le basket.
Alors, je suis pas sûr qu'il ne comprenne pas que le sport, déjà. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut le soutenir, il faut l'encourager, il faut croire en lui. Mais il faut pas s'enflammer, parce que ça serait brûler des étapes, ça serait l'empêcher de se développer tranquillement, ça serait lui mettre une pression qu'il n'a pas besoin d'avoir. Et ensuite, il faut se rendre compte quand même que cette première semaine sur le Tour de France, qui est magnifique pour lui, c'est quand même une semaine de puncher.
Ouais, que de la descente.
Ça commence. Ouais. Mais c'est une semaine de puncher.
Mais
oui, mais c'est ça.
Oui, mais la haute montagne n'est pas encore
arrivée. La haute montagne n'est pas arrivée. Allons-y progressivement. Ne lui mettons pas de pression. Continuons à aimer ce garçon. Continuons à l'encourager. Ne nous enflammons pas. On s'est enflammé déjà plein de fois et on s'est trompé. Parce que, effectivement, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu des très grandes performances sur le Tour de France. Soyons ravis de ce qu'on est en train de voir. Ne soyons pas enflammés. Ne mettons pas une pression sur un jeune comme ça.
Surtout les garçons, faut bien comprendre que Kevin Vauclin, le premier objectif dans sa carrière qui va être très précis maintenant, ça va être Paris-Nice, ça va être les courses d'une semaine. Là on vient de faire une course d'une semaine sans aucune haute montagne, qui est pour l'instant la zone de doute existante pour Kevin Vauclin. Et si on me dit moi aujourd'hui, faut-il s'enflammer parce que Kevin Vauclin est troisième du général d'une course d'une semaine avec beaucoup d'étapes punchy sans montagne et un chrono, bah non. Évidemment, parce qu'on sait qu'il a les qualités pour ça. Moi, ça m'étonne absolument pas.
Jérôme,
sur l'une
Fred,
des plus.
Vas-y, Pascal, à l'instant T, au classement général, après une semaine, il est devant Vingegaard.
Oui.
Okay.
Oui.
Il est troisième.
Oui, parce qu'on n'a pas fait de haute montagne, Pascal.
Ce qu'il a montré, déjà, de finir deuxième du Tour de Suisse, battu à la dernière étape au contre-la-montre par Almeida, deuxième de la Flèche Wallonne en avril ou en mars, c'est pas neutre. C'est une belle performance, ça situe le niveau du
coureur. C'est pas neutre, Pascal. Tu as suivi toi-même le Tour de Suisse.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît, vous n'arrêtez pas de parler. Donc, s'il vous plaît, j'ai le droit de m'enflammer avec beaucoup de raisons. Je m'enflamme comme un garçon raisonnable parce qu'il me montre. Et Simon est d'accord avec moi. Parce
ça n'a aucun sens s'enflammer comme
public,
un garçon raisonnable.
Le public, mais parce que je me réjouis de voir sa manière mais de courir aussi. Depuis le début du Tour de France. Donc je m'enflamme. Ça ne veut pas dire que je l'attends. Ça ne veut pas dire que je lui mets la pression. Je lui mets zéro pression. Je sais très bien que la haute montagne, il y a une interrogation. Je sais très bien que peut-être que l'étape où on va traverser le Puy de Dôme lundi 14 juillet, peut-être que déjà là, ça va être plus dur pour lui. Mais en attendant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'aujourd'hui, alors que c'est une étape qui est promise aux sprinteurs, pour qu'on le laisse tranquille et qu'il fasse des petits coups, des barreaux d'honneur, essayer de gagner une étape, qu'il se fasse larguer aujourd'hui, qu'il soit plus troisième à l'issue de la neuvième étape ce soir? Eh bien alors, enthousiasmons-nous avec conscience qu'il ne gagnera pas le tour.
Enthousiasme, voilà. Ça ne veut pas dire s'enflammer.
Bah, si, je m'enflamme, c'est de la sémantique, ça.
On est ravis de voir.
Oui,
c'est la sémantique,
c'est
important. On s'enflamme pas parce qu'on ne veut pas lui mettre la pression, mais on est ravis.
Toi, tu t'enthousiasmes parce que le Paris Saint-Germain vient faire 6 mois et tu nous dis c'est les gars du Real Madrid. Arrête, si toi tu vas pas me donner une leçon d'enflammade quand même.
Ben si, justement, je t'explique que moi je m'enflamme pour le PSG
en fonction du sujet
et que je m'enthousiasme pour mon club.
Il a du vocabulaire, c'est tout, Fred. Non, mais quand tu dis top 10, Jérôme, tu t'enflammes pas un petit peu justement parce que tu disais top 10, Tour de France, s'il est pas top 10, en gros, on pourra être déçu à l'issue du Tour de France.
On sera pas déçu, mais moi je pense qu'il en est capable. En tout cas, je serais déçu qu'il n'essaye pas, parce que cette année je sens qu'il y a de la place, parce que je sens que mine de rien, c'était pas des étapes de montagne, mais c'était quand même des bosses. Donc on a mis Skelmose, on a mis Henrik Maas, on a mis Lipovits, on a mis Roglic en difficulté déjà. Ils sont pas dans le même temps que lui. Il a montré quand même Kevin l'autre jour dans le Mur de Bretagne. Alors oui, tout le monde rigole, le Mur de Bretagne, c'est pas l'Alpe d'Huez. Ouais non, mais c'est un talus de deux bornes avec cette 7%, et quand ça accélère, lui, il peut suivre, les autres peuvent pas. Donc, c'est quand même déjà un signe. Donc, il va certainement
moi, je me suis
reculer.
Enflammé c'est quand ce que il a monté le
c'est ce que je voulais te dire. Mon Pascal, l'autre jour, tout à l'heure, on parlait du Tour de Suisse. Juste retenir une chose, c'est que sur le Tour de Suisse, sur la première étape, il prend 3 minutes 50 d'avance sur Almeida, et avec les étapes de montagne, petit à petit, il a perdu du temps. Donc, on sait que Kevin va progresser encore en montagne. Et là, il est dans la forme de sa vie avec cette espèce d'euphorie du Tour de France et de cette popularité. Mais c'est à double tranchant, ça aussi. Si un jour il a un coup de sang, un jour sang, pardon, et que ça le lâche, il peut aussi beaucoup, beaucoup dégueuler de temps parce que tout ça s'arrête. Et c'est là où il est le danger. Mais c'est pas pour autant que ce sera devenu un mauvais coureur, mais ça laisse beaucoup, beaucoup d'espoir parce que il fait partie de ces coureurs très moderne, en enlevant les Goat, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel, qui derrière a toutes les qualités pour être un coureur de grand tour. Maintenant, est-ce que ce sera cette année qu'il va comprendre cela? J'espère au moins, mais je pense, parce que en plus, son équipe BNB, Arkea BNB Hotel est à la recherche d'un successeur, qu'ils
donc
sont très bien entourés,
ambassadeur.
Qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça, je pense qu'ils vont faire jour après jour, mais je pense que Kevin va petit à petit rentrer dans le jeu du top 10, pourquoi pas. Aller chercher une étape aujourd'hui, oui, pourquoi pas, mais il a gagné une étape l'an dernier et je pense qu'il a beaucoup plus dans le caisson qu'une simple étape du Tour. J'espère que cette année, il va aller chercher l'idée de faire un classement général. Et même si ça marche pas, il en restera encore des étapes pour briller. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je veux pas qu'on s'enflamme. Parce que là, on a là quand même, en attendant peut-être le petit Sexas, quelqu'un qui assume son rôle et qui est capable de nous faire vibrer, si ce n'est nous enflammer.
Et encore une fois, oui. Tu l'as rappelé, Jérôme, il court sur tous les terrains, là où beaucoup, et notamment chez les coureurs français, se spécialisent, soit dans les courses à étapes. Et on a un Guillaume Martin qui a fait beaucoup de top 10, mais Guillaume Martin, il est inexistant sur les courses d'un jour. Dans les classiques, on le voit pas, on le voit qu'au printemps. Kevin Vauclin, il a réussi à faire allumer sa télé à beaucoup de monde pour regarder la dernière étape du Tour de Suisse. T'as rappelé que c'est vrai qu'il avait pris beaucoup d'avance, il avait un matelas, il s'est fait grignoter, mais je veux dire, il était encore en contention pour remporter le Tour pour le dernier chrono, le contre-la-montre final. Donc, c'est encore une fois mon droit de m'enflammer si Kevin Vauclin, voilà, sorti de nulle part, que je ne connaissais que très peu avant cette saison, fait top 10 cette année au Tour de France. Ouais, je vais m'enflammer. Ouais, alors, je vais trouver ça génial.
L'essentiel est que Kevin Vauclin ne s'enflamme pas, que voilà. Simon Dutin et Pascal Duprat s'enflamment, ça ne l'enlève rien, voilà. Lui.
Oui, mais que vous okay. Deux, laissons les autres l'encourager de ne pas s'enflammer trop. Lui, oui,
bon, allez, un petit dossier basket pour que tu t'enflammes.
Non, on va parler, allez, on va continuer de parler de Kevin Vauclin, les amis. Avec, alors je voulais citer Zinedine sur l'appli AMC Direct Studio qui nous disait il ne faut pas s'enflammer car on s'est enflammé avec des Godu, des Lenny Martinez. Voilà, Kevin, il a en plus il est média compatible, il fait des super perfs, mais il n'a encore rien gagné à part une étape l'an dernier. Voilà ce que nous dit Zinedine.
Et il a tellement raison, Zinedine.
Que nous dit Philippe au 32-16 qui nous rejoint. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Salut, bon, Philippe. C'est chaud là. J'entends que c'est chaud, c'est bien. Là.
Ah bah c'est Philippe, ouais, qui est un habitué des grandes gueules du sport. Je reconnais ta voix, Philippe. Bah justement, tu t'es de la team enflammade ou de la team calmos?
Alors juste aimer m'enflammer, mais hélas, je connais un peu ce sport et la physiologie. Je pense que Kevin Vauclin, c'est la nouvelle idole, on va dire, du public français. C'est mérité parce qu'il est très sympa, il est naturel et tout. Mais je pense que là, il est complètement sur régime et il va exploser parce que devant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. C'est inaccessible.
Mais on s'en fout de devant, c'est derrière qu'ils sont, oui, qui regardent.
Voilà. Non mais Jérôme, oui, mais tu sais comment ça va se passer. Oui. Là, il est sur le podium, donc ça va. Il va prendre un timbre ou un ticket dans une étape de montagne. Il va prendre 10 minutes, un quart d'heure. S'il finit 8e, tout le monde va l'oublier.
Non, justement
français,
pas.
Le public, il sait. Alors,
après,
on
faut
est
pas
d'accord qu'il y a un
top 10
public, du
Tour de France quand même.
Sur le Tour de France, il y a un nouveau public. Il y a un nouveau public qui vient de Netflix, certainement, qui s'enflamme pour Pogacar. Bon, à juste titre ou pas, les années suivantes le diront. Toujours est-il que les gens, ils aiment les premiers, ils aiment ceux qui gagnent. Et là, je pense que Kevin, il va hélas rétrograder parce qu'il est à fond.
C'est pas très nouveau, ça.
Enfin, si on s'enflamme que pour les premiers, comme Fred Weiss, en effet, on
va pas
mais je viens de te dire justement qu'il ne faut pas galvauder un top 10. Essaye d'écouter quand on les
en même
pas.
Temps,
c'est parce que tu nous as écouté avec Pascal.
Non, pas du tout. Mais pas du tout, je m'enflamme pas. Je l'encourage.
On en a eu des Français qui ont fait top 10. Tu citais Guillaume Martin. On s'est pas enflammé pour autant.
Hein. Ouais, c'est Guillaume ça. Martin, exactement. David Gaudu, Lenny Martinez, c'est des mecs qui n'existent pas dans les courses d'un jour, que ça n'intéresse pas, qui ne viennent pas se frotter aux meilleurs dans les classiques.
Ils n'ont pas les mêmes qualités.
Moi, voilà, on a suffisamment souligné avec Jérôme dans ce studio que une part de l'admiration qu'on a pour Pogacar, c'est le fait que il est partout. Il vient toute l'année. Il aime. Il pue le vélo. Il adore ça. Voilà, sur les pavés.
Oui, parce qu'il l'hiver, a ses qualités aussi. Dans les courses d'un jour.
Et ben justement, Kevin Vauclin, il a des qualités que d'autres coureurs français qui ont fait top 10 n'ont pas, et qui font que je m'enflamme plus pour Kevin Vauclin que pour d'autres coureurs français. Voilà.
Bon. La personnalité aussi. La personnalité, oui, voilà. comme Philippe l'a dit, il y a un nouveau public et Kevin parle comme eux. Il s'exprime comme eux. C'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, mais c'est aussi l'intelligence. C'est quelqu'un qui a aussi la tête. On l'a entendu, ses parents, il est très bien élevé. C'est un gamin qui a la tête sur les épaules, qui a besoin d'être encadré, qui par le passé s'est éloigné de la maison. Et pour redevenir très performant, il est rentré dans le foyer familial parce qu'il a ces valeurs-là. Il pue le vélo, Simon, mais il pue la France, Simon Dutin. C'est un vrai franchouillard, quoi. C'est le garçon qui est de Normandie, qui est bien chez lui, quoi.
Bon, on va te remercier, Philippe, en tout cas, d'être passé, d'avoir remis un petit peu d'huile sur le feu des grandes gueules du sport. C'est toujours agréable. Merci beaucoup, Philippe. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, et tu nous écoutes, j'espère, tout l'après-midi, notamment l'intégral tour avec Jérôme Pinot, dès 13h ce dimanche, pour suivre cette 9e étape. On va se régaler, Jérôme, là, avec encore une étape animée. Ça va bombarder dans tous les sens. Non, ça va être une étape.
Écoute,
ça va être une étape qui va finir au sprint.
Ça dépend. Faites pas la sieste trop longtemps parce que le vent va être un élément essentiel de la journée. Si ce n'est bordure, ce sera nervosité. On va certainement assister à une étape un peu plus animée que ce qu'on imagine. Maintenant, on va dans la ville de Châteauroux, Châteauroux-les-Pins, Châteauroux Beach. On va vers le bord de mer. Là, Christophe Cessieux est enflammé ce matin. Il est ravi de revoir Châteauroux. C'est une ville qui lui avait manqué.
Et on note, grâce à Philippe, prendre un timbre, prendre un ticket, on valide l'expression. J'ai bien aimé, moi, c'est pour savoir.
Est-ce que c'est une expression?
Prendre un timbre, ça existe, Pino. Jérôme?
Prendre un tram dans la montagne, non. Là, non, ça...
Non.
Pourquoi pas.
Toi, tu dis autre chose, toi. Prendre un... Je sais pas. Bon, en tout cas, si vous voulez retrouver les expressions de Jérôme Pinot, c'est également cet après-midi, 13h, intégral tour, à suivre en direct sur RMC. Merci, Jérôme. À bientôt.
Salut les copains. Salut. Voilà,
merci, Jérôme. Salut, bonne
émission. Et on retrouvera également Maria.
Salut, mon Biggie.
On retrouvera Maria Azé à 11h30, puisqu'on va ouvrir un dossier, puisque, justement, on ne comprend pas vraiment, enfin, certains ne comprennent pas pourquoi les deux étapes du week-end, samedi et dimanche, sont des étapes où on s'ennuie un peu. Voilà, donc n'hésitez pas, 32-16 également, et écoutez ce débat à venir, ça sera à 11h30. Dans un instant, la punchline GG signée ce matin Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, écrasé hier par la Nouvelle-Zélande. Est-ce que cette tournée a vraiment du sens? 32-16 pour nous rejoindre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h32, vous écoutez les grandes gueules du sport ce dimanche. Simon Dutin, Pascal Duprat, Fred Weiss, dans un instant d'ailleurs. Ce sera le moment des grandes gueules contre-attaque. Alors nous sommes encore sur des débats ultra serrés. Je ne sais pas ce qui vous arrive ce week-end, tous les trois.
Ben, on n'est que trois déjà.
Oui, mais ça reste très serré pour l'instant. Eh bien, c'est encore Simon Dutin qui est en tête avec son débat autour du brassard arc-en-ciel pour l'équipe de France féminine. Elles hésitent à le porter. 36% et à égalité 32%, vous n'êtes pas loin derrière. Faites appel à vos familles, vos parents, vos amis, Fred Weiss et Pascal Duprat. Pascal qui veut revenir sur la Coupe du Monde des clubs, est-ce une réussite? Et puis toi qui veux parler de LeBron.
Non, LeBron.
Ah oui, c'est ça. Je savais que j'allais...
Ouais. LeBron James.
De James, alors. Je voulais faire style LeBron, mais en fait, c'est ridicule. LeBron James et les Lakers. Il y a peut-être de la friture sur la ligne. Allez voter. Il vous reste quelques minutes sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais avant, c'est l'heure de la punchline GG signée Fabien Galthié. C'était hier après la défaite 43-17 face à la Nouvelle-Zélande au micro de Canal+.
RMC, la punchline GG.
C'est un moment qui était difficile à vivre. Le match a été difficile, notamment la première mi-temps. On rentre avec 29-3. La deuxième mi-temps, l'équipe va faire 14-14. Donc une belle réaction de l'équipe, une belle réaction des finisseurs. Ça a été un match difficile. On a réussi à redresser la barre. Et la deuxième mi-temps, on fait 14-14. Donc deuxième défaite.
Deuxième défaite de l'équipe de France, largement battue lors de ce deuxième match. La plus lourde défaite de l'ère Galtier, sélectionneur depuis 2020. Alors, est-ce que cette tournée des Bleus a du sens? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Simon Dutin?
Je regrette, mais non.
Ah, les Bleus qui ont coulé hier, 6 essais encaissés, une prestation bien moins intéressante que la semaine dernière. Salut Clément Brossard, tu étais au commentaire du match. Cette défaite a été dure à encaisser pour cette jeune équipe de France, lucide sur la supériorité des All Blacks hier.
Salut François, salut les GG, ça a été difficile, oui, pour les Bleus hier, en tout début de rencontre, pourtant on s'est dit pourquoi pas, une grosse séquence française, pas loin d'être récompensée après 3 minutes de jeu, mais la France a ensuite perdu pied, battue dans tous les secteurs, notamment dans la conquête, un manque d'expérience criant, 63 sélections pour les titulaires du 15 de France, au coup d'envoi 7 de moins que Jordi Barrett, à lui seul, c'est dire, centième capitaine de l'histoire de l'équipe de France, Gaëtan Barlow l'avoue, les Bleus ont été dépassés.
On attendait vraiment un autre score, aujourd'hui ils étaient vraiment meilleurs que nous. Ils nous ont pris devant, ils ont eu beaucoup de rythme, ils nous ont mis à la faute, ils ont beaucoup joué chez nous et après ils ont déroulé leur rugby. Je pense qu'aujourd'hui ils ont monté d'un cran, la semaine dernière on a mieux répondu.
Et même constat pour Esteban Abadi, titularisé au poste de numéro 8 hier.
Quand tu prends 43 points, c'est sûr qu'ils marquent facilement. On savait que voilà, les Blacks allaient élever le niveau, on n'a pas su relever le défi qu'ils nous ont proposé ce soir, donc ça fait chier.
Mené de 26 points à la mi-temps, les Bleus ont tout de même réagi. Ils ont profité aussi peut-être d'un adversaire ayant baissé le pied, certainement même. Après 80 minutes de jeu, Fabien Galtier préférait relever le caractère de ses joueurs en seconde période.
Mais on peut aussi retenir la deuxième période où on fait match nul alors qu'on était vraiment la tête au fond de l'eau. Moi j'ai envie de féliciter les joueurs pour leur réaction. Le reste ça a été dur, tout le monde l'a vu et on en a conscience. J'ai toujours dit le défi semble impossible, donc il y a une différence, il n'y a pas photo.
Le sélectionneur des Bleus qui voulait que ses joueurs abandonnent leur complexe, eh bien certains l'ont fait, comme Joshua Brennan, marqueur du deuxième essai pour sa première sélection. D'ailleurs Erdosio, Beauchaton, Alagahu, Werntaifer et Dobania ont eux aussi connu leur première cape hier matin, sans être certains d'enchaîner la semaine prochaine pour le dernier match test en Nouvelle-Zélande.
On a un troisième rendez-vous à Hamilton et on verra bien. Il y a pas un match qui sort ensemble. On se sert de chaque match pour essayer de construire l'équipe sur cette tournée. Il nous reste un troisième test qu'on va vivre pleinement et on va tâcher d'être à la hauteur et de performer.
Avec les retours certainement des Guillard, Ficou, Fischer, très intéressant le week-end dernier lors de la courte défaite des Bleus. Il faudra au moins ça pour ne pas sombrer sur une terre où l'équipe de France ne s'est plus imposée depuis 2009.
Merci beaucoup Clément, et on suivra d'ailleurs ce prochain match de l'équipe de France. Ça sera en direct dans les grandes gueules du sport samedi prochain à partir de 9h en direct donc ce Nouvelle-Zélande-France. Est-ce que cette tournée a du sens après donc ces deux défaites et notamment celle d'hier, très lourde défaite? Oui ou non, pour toi ça n'a pas de sens Fred?
Non, ça n'a pas de sens parce que on n'amène pas l'équipe type, donc à quoi ça sert à autant d'intervalles avant le prochain match vraiment avec de l'importance et vraiment officiel? Il est en janvier. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est en juillet, on amène une équipe là-bas qui ne sera pas l'équipe type et qui aura très peu de chances d'avoir des joueurs premium, qui ne sert absolument à rien, qui fatigue les joueurs, les organismes, etc. Et en plus, moi j'ai un tout petit peu honte, je suis désolé, quand je pense aux Blacks, quand ils viennent pour notre tournée d'automne, pour nous préparer, nous, à nos matchs de janvier, pour notre tournoi à destination, eux, ils viennent toujours au complet.
Ouais.
Par contre, nous, on n'est pas capable de leur envoyer, on n'est pas capable de renvoyer l'ascenseur en envoyant les meilleurs joueurs pour les faire travailler, parce que eux, ils ont une rugby championship, je crois que c'est fin août ou mi-août. Là, on aurait pu être intéressant pour eux pour les faire travailler. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça nous sert à rien à nous, parce que nos joueurs ont peu de chances de faire partie de l'équipe premium. Ça sert à rien.
Tu vas vite en besogne.
Au Black, parce que eux veulent se préparer et finalement, ils ont une équipe.
Ils veulent affronter,
affronter une équipe intéressante qui les fasse progresser, qui les fasse travailler pour leurs échéances, on n'est pas capable de faire. Et finalement, la prochaine fois et la seule campagne qui compte pour moi, c'est le tournée d'automne. La tournée d'automne, oui, elle te prépare au tournoi destination, mais là, en plein milieu, juste après le championnat, avec pas tes meilleurs joueurs, avec des joueurs qui ne joueront pas. Parce que qu'est-ce qu'il y a, de l'eau qui va couler sous les ponts avant janvier. Hein.
Non, mais
il y a énormément d'eau qui va couler sous les ponts.
En fait,
c'est juste ridicule. On se ridiculise. On rend pas service aux Blacks.
Oh, tu t'es pas ridiculisé parce que t'as pris 30 points hier.
Non, bah, non, c'est une équipe expérimentale. C'est pas le score qui te ridiculise. C'est le fait de pas amener les meilleurs. Et d'ailleurs, tu as lu la presse? Tu as vu un peu la presse de ce qu'ils ont dit là-bas? pas en Nouvelle-Zélande.
Oui, mais
c'était en que c'était honteux ce qu'on avait envoyé.
Je souscris à ce que tu dis.
Oui,
avant le premier match. Je souscris à ce que tu dis concernant l'équipe de France que l'on envoie en Nouvelle-Zélande pour affronter les Néo-Zélandais et les All Blacks. Là, je suis d'accord avec toi. Chaque fois qu'ils viennent en Europe, ils viennent avec leur meilleure équipe. Nous, on a pris le parti d'envoyer une équipe expérimentale composée pour la plupart de jeunes joueurs. Bon, ça n'a pas de sens pour le grand public. Ça n'a pas de sens pour l'amateur de rugby. Par contre, ça a un sens pour les sélectionnés, les joueurs qui vont participer, qui participent à cette tournée. Et ça a un sens pour le sélectionneur et son staff. Ça a un sens pourquoi ? Parce qu'ils élargissent le champ, on va dire, des expérimentations. Je suis pas d'accord avec toi.
Donc
sur
6
le
mois
fait
avant
que...
la compétition, quoi. Même un peu plus.
Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que cette tournée ne peut pas révéler des joueurs premium futurs. Donc Galtier, il est dans son rôle. L'équipe de France, elle est élargie au maximum. Comme jamais ça n'a été en France. Et Galtier jouit, si t'aimes mieux, de cette latitude de puiser largement dans les réservoirs du rugby français qui est grand, qui est énorme. Donc ça a du sens pour les joueurs qui se confrontent à ce qui se fait de meilleur.
Tu
au
penses
monde.
Qu'ils progressent voilà. à travers
bien sûr,
des matchs comme
tu progresses.
Ça
bah, quand tu joues contre les meilleurs
quand
du monde,
rouge,
fatalement,
tu progresses.
Et j'aimerais simplement faire ce petit parallèle. Monsieur Fred, tu t'enthousiasmais la semaine dernière parce que les Français, lors du premier test match, eh bien, ils ont titillé les Néo-Zélandais. Et puis voilà, pas qu'une semaine après, toi, t'as une géométrie extrêmement variable.
Non,
l'émotion partagée.
Si
t'as pas beaucoup
ça.
De constance
si.
dans ton
grand,
analyse.
J'étais très content qu'on puisse permettre aux Blacks de progresser. Sauf que ce que je ne savais pas, parce que je n'ai pas la culture. Que vous pouvez avoir sur le sport, je savais pas que eux étaient en début de préparation et que juste sur le deuxième match, eux avaient progressé dans leur préparation et avaient des bien meilleurs joueurs que nous et qu'ils allaient nous mettre une rouste monumentale.
Ouais.
Et
oui, que ils étaient surtout vexés du premier match.
Non, mais tout le monde avait prévenu.
C'était quand même un peu prévisible, Simon. Voilà. Cette valise que l'on a prise. Finalement.
Oui, souvent quand tu perds de quelques points le premier match, tu prends une raclée au
oui,
deuxième.
Il y a eu beaucoup de changements.
C'est
hein.
pas la première fois.
10 sur 15 joueurs étaient différents.
A fortiori, tu le rappelles justement, autant de changements par rapport à une équipe qui est déjà une équipe B, voilà, parce que et ça, moi donc je regrette de dire qu'il y a, oui, une équipe C. Je regrette de dire que ces tournées n'ont plus de sens. Si Philippe Saint-André, qui est souvent avec nous, était là, il me gronderait. Mais en effet, ça n'a plus de sens parce que c'est le calendrier effroyable du rugby professionnel qui fait que pour des raisons de sécurité physique des joueurs, tu ne peux plus emmener les joueurs qui jouent les demi-finales et la finale du top 14 et qui bien souvent quand tu vois l'UBB et Toulouse, c'est les trois quarts du 15 de France.
Il y en avait quelques-uns
ça,
quand même.
Mais je suis pas d'accord avec toi parce que ça c'est la rançon de la gloire.
Non mais
je suis pas d'accord avec vous sur ce côté précautionneux, faut préserver les joueurs. Arrêtons s'il vous plaît, une carrière d'un joueur professionnel de rugby, de football, de basket, c'est la multiplication des matchs
mais
aujourd'hui.
Oui, mais Pascal,
donc je suis pas d'accord
mais
avec
Pascal,
ça.
Mais moi je suis
pas d'accord avec
toi.
Non mais beaucoup de joueurs voulaient partir d'ailleurs. Beaucoup de joueurs premium voulaient y aller.
Mais oui,
d'ailleurs.
Exactement.
C'est
parce
ça le problème.
Parce que ça n'arrive qu'une fois ou deux fois dans une vie. Parce que tu vas en Nouvelle-Zélande un coup, après faut aller en Australie, après faut aller en Afrique du Sud, faut aller en Argentine désormais. Donc le train Nouvelle-Zélande, qui est quand même voilà la mecque du rugby, ne repasse pas tous les jours. Donc elles n'ont plus de sens parce que tu ne peux plus emmener tous tes meilleurs joueurs, même ceux qui désirent les jouer parfois sont empêchés par leur club ou par les accords entre la fédération et la ligue. Et puis, du coup, ces matchs ne veulent plus rien dire. Le rugby, c'est une des beautés de ce sport, c'est que le palmarès ne se compte pas que avec des coupes, avec des trophées. Et remporter une tournée dans l'hémisphère sud, ça a longtemps été quelque chose de légendaire, de prestige. La tournée de 94, laissée du bout du monde, Jean-Luc Sadourny, je veux dire, c'est des choses
ouais.
qui ont laissé une trace dans la grande histoire du rugby. Même les Australiens en ont entendu parler, les Sud-Africains, les Anglais. Maintenant, t'as l'impression que voilà, ça sert de répétition générale, ça sert de voilà de test pour est-ce que lui il a les épaules, il a ce qu'il faut dans le short pour intégrer mon équipe et est-ce que
ça ressemble pas à des matchs amicaux.
Ben, quasiment,
test match et maintenant ça ressemble à des tests amicaux.
C'est là que je te rejoins et je pense c'est pareil le hasard, c'est très important au niveau financier pour les fédérations et dans l'hémisphère sud on a beaucoup souffert à post-Covid, donc il faut remplir les caisses et donc tu ne peux pas te priver de ces tournées ou de l'accueil de
sélections. Il parle d'une nouvelle formule sur les tournées d'ailleurs.
Moi je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à trouver une seule date, voilà, tournée d'automne, tournée d'été, voilà, tu fais une seule tournée dans la saison et je remarque que les Blacks ils viennent jouer ou l'hémisphère sud vient jouer à l'automne en Europe, donc dans des conditions souvent difficiles. Et nous, on va, pendant l'hiver austral, jouer. Donc, ces matchs-là, en plus, ils se jouent souvent dans des conditions. Il fait froid, souvent il pleut, il y a du vent. Et je pense qu'il faudrait trouver une solution pour que ça se joue à une période où les organismes sont peut-être un petit peu moins sollicités et où ces matchs ont un petit peu plus d'intérêt sportif.
Bon, en tout cas, on verra ce qui se passe pour le troisième match de l'équipe de France. Hein. Il y en a encore un à jouer dans cette tournée en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'on aura aussi un bilan de Fabien Galthié à l'issue de cette tournée en Nouvelle-Zélande. On suivra ça, bien sûr, sur RMC. Et donc, je vous l'ai dit, prochain match, samedi prochain, 9h05, en direct dans les Grandes Gueules du Sport. Vous restez avec nous parce que là, sur les Grandes Gueules qui vont prendre les commandes de l'émission, les GG contre-attaque, c'est encore ultra serré. Vous avez vraiment quelques secondes pour voter et pour faire basculer le vote. Je ne vous en dis pas plus. Allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport et votez pour votre débat préféré. On en parle juste après.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet,
Pascal Duprat, Fred Veil, Simon Dutin en grande forme ce matin pour les Grandes Gueules du Sport. Dans un instant, on ira à Wimbledon pour parler de la finale entre Alcaraz et Sinner. C'est ce soir, enfin cet après-midi à 17h. Est-ce que la finale de Roland-Garros, déjà entre les deux hommes, va jouer sur cette finale londonienne? On en parle dans un instant. On sera aussi avec Sarah Pitkowski. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, les Grandes Gueules prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les Grandes Gueules du Sport qui vous ont proposé un débat, c'est vous qui avez choisi pour votre débat préféré. Ça a changé à peu près tout le temps depuis qu'on vous a proposé ce débat. Il y a eu énormément de suspense. Merci beaucoup à tous les votants. Les votes sont clos.
Et merci à Fred, surtout.
Et ça se termine. Bon, pour une troisième place.
Moi, j'essaie d'être original.
Au moins, t'es sur le podium.
C'est vrai, basket du foot. À chaque fois.
T'es sur le podium, au moins, Fred.
Oui,
c'est troisième. Voilà.
On parle pas suffisamment.
Voilà, pour Fred, parler de LeBron James, bah, tu tenteras une prochaine fois, peut-être, si la friture sur la ligne continue avec les Lakers. C'était ultra serré entre Simon et Pascal. 33,6. Il est deuxième avec son débat. Simon Dutin, qui voulait parler de l'équipe de France féminine et du brassard arc-en-ciel. Il est devancé d'un cheveu. Il s'est vengé d'hier, en fait.
Ah oui.
Pascal
d'un cheveu par Pascal, ça la fout mal.
Ah ouais, quand même. 34,5. Pascal, qui remporte ses GG contre-attaque. Bravo, Pascal.
Non, mais
la Coupe du Monde des clubs est-elle une réussite? C'est la question que tu voulais poser, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui. Mais en fait, je brille grâce à vous, car vos sujets étaient excellents. Donc voilà. Ma victoire, je vais la savourer parce que en fait, je vais démontrer que mes deux amis GG, eh bien, en l'espace de 3 semaines, ils ont changé d'avis. Donc, je voudrais simplement vous exposer ce qu'a dit Infantino hier en conférence de presse, le président de la FIFA. Il dresse un bilan remarquable de cette Coupe du Monde des clubs, à tel point qu'il dit que c'est un succès financier, plus de 2 milliards de dollars de revenus. Soit 31 millions de dollars par match. Je ne sais pas si vous situez un peu l'impact financier de cette Coupe du Monde des clubs. Il dit aussi, et il a raison, que c'est un franc succès en termes de sécurité. Il n'y a pas eu un problème à déplorer. Et il loue l'attitude des supporters des clubs. Et il loue aussi l'attitude des supporters du Paris Saint-Germain, ce qui ne gâte rien. On l'a vu en Champions League, les supporters du Paris Saint-Germain, partout où ils sont allés, ils ont été exemplaires. Tant ils ont supporté leur équipe, tant ils ont fait du bruit, mais tant ils se sont bien conduits.
c'est aussi, d'après lui, un franc succès au niveau sportif. Alors là, j'aimerais simplement, c'est mon avis, premier tour, je suis absolument d'accord avec Simon, c'était pas extraordinaire. Par contre, à partir des phases éliminatoires, on a assisté à de très très bons matchs, et notamment à un Paris Saint-Germain éblouissant, on l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, il parle aussi du succès populaire. Et là, je vous laisse en juger. C'est quand même sur le premier tour, les phases éliminatoires, 34 000 spectateurs de moyenne par match, alors qu'on disait que personne ne suivait. Okay. Et puis là, ben, les stades sont combles. Il faut savoir que ce sont de grands stades aux États-Unis, pour certains, plus de 80 000 personnes de capacité maximale. Donc, ceci m'amène à vous dire que cette première édition, eh bien, moi, j'attends la suivante. Et j'attends la suivante en Europe, tant. C'est allé certes crescendo, mais tant je suis malgré tout d'accord avec Infantino, je pense que cette Coupe du Monde des clubs a cette place pour longtemps. Qu'en pensez-vous, mes amis?
Bravo Gianni Infantino. Bravo Gianni alors.
J'attends vraiment vos avis sur ce sujet-là.
Alors, est-ce qu'on dit bravo Gianni Infantino?
Ah oui, évidemment. De toute façon, Infantino.
Quel homme.
Infantino, si ça
a révolutionné le football.
Ah mais c'est tant que ça remplit les caisses de la FIFA, c'est un succès. De toute façon, c'est son credo. Il n'est guidé que par l'attrait de l'argent. Il veut se servir
parce
du
que
football.
Ses prédécesseurs, pour... l'argent, ça ne
l'intéressait pas. Écoute, Infantino, c'est quand même. Tu sais, c'était le monsieur loyal qui ouvrait les boîtes dans les tirages au sort.
Il le faisait très bien.
Et qui, exactement, qui attirait beaucoup de sympathie parce qu'on le retrouvait que pour les tirages au sort. Ouais. C'était le gentil.
Vous connaissez son salaire fixe?
Non, franchement, pour ne me le donne pas.
Vas-y.
4 millions de dollars par an. Mais ça ne représente que le salaire fixe.
Ah oui. Ça pouvait grimper encore un petit peu grâce à cette réussite. On espère qu'il va avoir.
Il dit l'âge d'or du football a commencé.
Bien sûr, mais il veut faire la Coupe du Monde à 140 pays, de toute façon.
Non, il veut faire la NIC à l'UEFA.
Voilà, bon, et de toute façon, c'est un succès. Arsène Wenger, qui roule pour la FIFA depuis des années, nous a expliqué que cette compétition était extraordinaire cette semaine, évidemment. Lui, l'ancien manager d'Arsenal, qui aurait mais hurlé aux quatre vents si jamais.
C'est quand tu tombes ta veste.
Ah, mais sans rire. Et lui aussi, il doit avoir un bon salaire, Arsène Wenger de la FIFA. Risto Stoïkov, qui a fait beaucoup de ménage pour la FIFA, a dit que les joueurs étaient quand même gonflés, les managers étaient gonflés de râler sur le calendrier, que maintenant ils avaient droit à 5 changements et plus 3 par match. Enfin bon, si on a le badge FIFA sur la veste, évidemment c'est un succès. Là où j'ai fait amende honorable, c'est qu'en effet, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le cirque, ce premier tour, cette phase de poule. En effet, on voit du foot de qualité depuis les matchs à élimination directe. Je pense que cette compétition, elle a évidemment de l'avenir, qu'il faudra quand même dans le futur repenser un tout petit peu les critères de sélection. Parce que on a vu des équipes qui donnaient l'impression de jouer un tournoi d'avant-saison ou une tournée post, tu vois, triomphe, tu vois, pour conclure, tu vois, un stage d'été. Oui, et je pense
tournée d'adieu.
Je pense qu'il faut faire de cette compétition une récompense. Voilà. Au bout d'une saison, on a remporter le droit d'aller se confronter aux autres meilleures équipes des autres confédérations.
Ça existait déjà, la Coupe intercontinentale.
Moi, la Coupe intercontinentale, c'est une Madeleine de Proust. Ça se jouait à Tokyo. Il n'y avait pas Internet à l'époque.
Oui, mais ça se jouait avec 6 équipes, le vainqueur.
Non. Pendant une époque, c'était le vainqueur de la Libertadores contre le vainqueur de la Coupe des Champions.
Oui, mais la formule actuelle, c'est ça dont je veux t'entendre parler. C'est quand même pas si mal que ça.
Je pense,
même s'il faut, il faut que les critères de sélection soient revus. C'était la première.
Je pense
c'est pas si mal que ça.
Je pense qu'on a attribué quand même beaucoup de place à la Confédération européenne. Tu vois, il y a 12 équipes européennes, je pense.
Bah d'ailleurs, ça se termine par une finale européenne.
Et ça se joue, à part, bon, t'as les vainqueurs des Coupes d'Europe, machin, ça se joue au coefficient UEFA, si j'ai pas trop
mal compris. Oui, c'est ça. Mais...
Je pense qu'il y a trop d'équipes et qu'il va falloir réduire un petit peu la voilure et surtout, voilà.
Donc ouvrir encore plus,
muscler un petit peu les processus de sélection, les critères de sélection pour que la simple participation...
T'avais quand même les meilleures équipes brésiliennes, africaines,
on l'a vu, mais bon, par exemple, une Juventus, que faisait la Juventus dans cette compétition? L'Atlético, t'as l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là.
Ouais.
Chelsea, au premier tour, j'y reviens, la défaite face à Flamengo, elle a été mais honteuse de la part d'une équipe de ce calibre. Les prestations de City n'ont pas été quand même foudroyantes. Donc je pense qu'à l'avenir, il faudra...
Je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'a pas retourné sa veste du tout, ouais. Hein, Simon, encore.
Il demande juste un petit amendement.
Tu vas voir l'audience sur RMC ce soir.
Moi, je vais répondre à ta question, parce qu'il nous a endormi un petit peu, Simon, sur sa réponse. Oui, oui. Parce que finalement, moi, j'ai retourné ma veste. J'étais complètement contre cette compétition qui me paraissait catastrophique. Les premiers matchs m'ont donné raison et j'avais pas du tout envie de suivre. Et effectivement, quand ça a commencé à passer dans l'entonnoir, quand on est allé sur des matchs couperés, eh ben oui, je me suis intéressé. Oui, j'ai trouvé des beaux matchs. Oui, j'ai bien aimé. Et j'avoue, effectivement.
Oui, mais t'as aimé la compétition quand c'est devenu la Ligue des Champions, en fait.
Voilà, exactement.
C'est ça le truc.
Exactement.
C'est quand
j'adore ta franchise.
PSG Bayern, PSG Real, PSG Chelsea.
Exactement. C'est ça. Exactement. Bayern, Real.
C'est pas ce que veut faire Gianni Infantino.
Je suis d'accord.
Il veut ouvrir.
Ça m'a plu à ce moment-là.
À d'autres clubs.
Et les performances exceptionnelles du PSG ont beaucoup contribué à mon retournement
également. C'est notre vision ici en France,
bien
parce
sûr.
Que le PSG a réussi de grosses prestations. C'est pour ça que cette compétition aussi a...
La même compétition en Europe, Pascal. On verra si ça prend pas. La même compétition en Europe. Vous verrez que les Sud-Américains, ils seront enthousiastes de venir en Europe. Vous verrez que les Européens seront très heureux de la jouer et que ça va devenir une compétition à plus forte raison. Si le PSG la gagne, ça va être une compétition où tout le monde va rayer le parquet.
Ouais. Alors, pour l'instant, c'est le Qatar qui serait candidat, en tout cas, pour accueillir la prochaine Coupe du Monde des clubs dans 4 ans. Et peut-être qu'on t'y verra, Pascal. On verra.
Pour faire quoi?
Bah, je sais pas, sur le banc, si commenter, on sait pas.
Ah, si Infantino, il fait une partie de son salaire, j'y vais.
Voilà, comme
si Infantino, il veut un porte-serviette, je veux bien y aller.
Eh
si
bah, écoute, on vient avec toi. Tiens, petite info foot, puisqu'on parle de foot. C'est à retrouver sur rmcsport.fr pour plus de détails. Mais, Pierre-Emerick Aubameyang est en, négociation avancée avec l'Olympique de Marseille. Ça pourrait donc se faire, le retour d'Aubameyang à Marseille. On l'a évoqué hier. Vous pouvez retrouver le podcast. C'était dans le zapping des grandes gueules du sport avec l'avis notamment de Pascal Duprat sur cette question. On revient dans un instant sur RMC avec les GG qui passent la seconde sur le gazon londonien. Alcaraz face à Sinner, finale de rêve à Wimbledon, remake de la finale de Roland Garros. Mais est-ce que ce dernier combat entre les deux va jouer dans les têtes? On retrouvera Eric Salio et Sarah Pitkowski pour muscler ces grandes gueules du sport ce dimanche. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.